Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Peut-on contracter une maladie malgré la vaccination? Alors qu'il s'agisse des vaccins obligatoires chez les enfants ou de ceux administrés en urgence lors de crises sanitaires, le rapport bénéfice-risque de la vaccination est souvent remis en question, vous le savez. Là, le débat diffère en fonction de la maladie concernée. En effet, l'efficacité d'un vaccin dépend de plusieurs variables et son administration ne garantit pas toujours de ne pas contracter la maladie. Commençons par voir le principe de la vaccination. Ici, on pourrait tout à fait comparer le vaccin à un entraînement. Oui, en fournissant à l'organisme un aperçu de l'agent pathogène, mais sans provoquer la maladie, cette technique stimule le système immunitaire pour le préparer à réagir contre une véritable infection. Mais parmi les stratégies de vaccination employées, trois types se démarquent. D'abord les vaccins atténués, qui comprennent une forme très faible du virus. Le virus vivant est donc actif. Puis il y a les vaccins inactivés, qui contiennent le virus ou des morceaux du virus qui ont déjà été tués et ne peuvent pas se reproduire. Et enfin les vaccins à ARN messager, qui utilisent des cellules qui produisent la protéine spécifique au virus visé, sans que celui-ci n'ait besoin d'être injecté. Ensuite, lors de la rencontre avec l'ennemi, le système immunitaire produit des anticorps et des cellules T pour lutter. Il met en place une mémoire immunitaire qui l'aide à se souvenir de l'agent pathogène. Dès lors, en cas de nouvelle rencontre, l'organisme peut se défendre beaucoup plus rapidement et efficacement. Bon, voilà pour le principe. Ensuite, les autorités sanitaires n'imposent généralement que des vaccins qui ont largement prouvé leur innocuité et à minima leur intérêt par rapport au risque de la maladie. Cependant, l'efficacité d'une vaccination est aussi influencée par des éléments variés. Parmi eux, l'âge de la personne, les nourrissons et les personnes âgées disposant d'un système immunitaire moins performant. Mais également la variabilité génétique, puisque certaines personnes répondent plus favorablement à la vaccination que d'autres. Enfin, l'état de santé, surtout dans les cas d'immunodépression. Au-delà, le nombre de rappels effectués joue aussi un rôle clé. La vaccination ne s'avère pleinement opérationnelle que lorsque les rappels sont à jour, ce qui signifie que le système immunitaire dispose de l'agent pathogène en mémoire. Autrement, le corps subit le déclin d'immunité, c'est-à-dire qu'il oublie petit à petit comment réagir en cas d'infection. Mais bien sûr, les vaccins n'ont jamais une efficacité absolue. Elles varient selon les souches de virus en circulation, comme pour la grippe, dont le vaccin doit être actualisé chaque année. Et puis l'évolution de variants peut aussi générer des situations où le virus muté échappe au moins partiellement à la réponse immunitaire induite par le vaccin. Enfin, je crois qu'il faut comprendre la notion d'immunité collective. Une population n'est correctement protégée que si un pourcentage suffisant des habitants est immunisé, par vaccin ou par infection antérieure. Si la couverture vaccinale est insuffisante, la maladie continuera de circuler et touchera les personnes les plus sensibles, vaccinées ou non. Par ailleurs, être vacciné ne dispense pas d'être contagieux, ce qui implique de prendre des précautions avec les seniors et les jeunes enfants. Avant de vous quitter pour aujourd'hui, je suis très heureux de vous annoncer le retour d'un podcast dont les plus anciens d'entre vous se souviennent peut-être, Petit Curieux. C'est un podcast pour les enfants de 7 à 12 ans, dans lequel je réponds de manière adaptée à leur âge et de la façon la plus pédagogique possible, en une minute, à une question par jour, une question que peuvent se poser les enfants, bien sûr. Par exemple, les épisodes suivants sont déjà dispo. Pourquoi les flamants roses sont-ils roses? Comment font les avions pour voler? Peut-on vraiment mourir de rire? Ou pourquoi le coq chante le matin? Et puis cette semaine, je traiterai par exemple de pourquoi y a-t-il une trace blanche derrière les avions dans le ciel? Ou encore, les licornes ont-elles vraiment existé? Sur ce podcast, je publie tous les jours à 6h du matin, du lundi au vendredi. Pour l'écouter ou vous abonner, rien de plus simple. Cherchez Petit Curieux, petit avec un S, dans Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou toute autre application de podcast. Ou alors, rendez-vous sur chosesasavoir.com et vous le trouverez dans la liste. Voilà, bonne écoute et à très vite.